Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Léa Capuano, Emma Liechtenstein, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Le Cuivre. Et à la technique ce matin, c'est Sébastien Royer. Comme chaque vendredi dans Culture Monde, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec notre partenaire du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Au sommaire de l'émission de ce jour, nous parlerons du Soudan, ravagé par une guerre qui dure depuis un an, l'aide humanitaire utilisée comme une arme par les deux camps, celui du général Al-Bourane des forces armées soudanaises et celui du général Emeti, son ancien allié. Le pays est comme coupé en deux selon une ligne nord-sud et plus de 8 millions de personnes ont dû quitter le pays. Alors qu'une conférence humanitaire se tenait cette semaine à Paris. Nous avons invité ce matin Gwenaëlle Lenoir. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes journaliste indépendante. Vous travaillez en ce moment pour Mediapart. Vous êtes spécialiste du monde arabe et de l'Afrique de l'Est. Bonjour Jérôme Tubiana.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, conseiller aux opérations de Médecins Sans Frontières et spécialiste du Soudan. Vous avez notamment très longtemps vécu au Darfour. Merci à tous les deux d'être avec nous. D'abord, place à notre retour d'eux. Aujourd'hui, en Colombie, c'est un autre conflit armé qui a duré 25 ans et a fait plus de 450 000 morts. 450 000 morts et 100 000 disparus pour qu'au bout du compte, certains vétérans puissent poser à côté d'un anonyme président de la République, leur restituant un drapeau souillé de poudre et de sang afin qu'ils en recouvrissent leur cercueil, comme l'écrivait de la Colombie du XXe siècle Gabriel Garcia Marquez. D'autres attendent encore une lettre dans la pénombre de la charité publique, crevant de faim, survivant par colère, moisissant de vieillesse dans l'exquis merdier de la gloire. Une guerre de 25 ans que se sont livrés l'armée colombienne, la guérilla marxiste des FARC et les paramilitaires d'extrême droite. Alors qu'un accord de paix a été signé en 2016, le pays a entamé un long processus de réconciliation nationale. Bonjour Camille Toulmé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste réalisatrice indépendante. Vous avez, avec Clémentine Athanasiadis, réalisé pour Arte un documentaire qui sera diffusé demain soir à 18h35. Colombie, l'impossible réconciliation. C'est une question que vous posez. Et vous avez voulu incarner ce processus de réconciliation à travers des histoires particulières, des portraits, notamment celui d'Helmut. Lui, il cherche le corps de son père. D'abord, est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il sait de la façon dont sont morts ses parents?
Pendant longtemps, il savait pas grand-chose de comment ses parents avaient disparu. Et c'est progressivement, au fur et à mesure des années, et notamment grâce à ce processus de paix, ces accords de paix et cette justice transitionnelle, qu'il a pu faire le jour sur ce qui était arrivé à ses parents. Donc pour l'instant, il a pu retrouver le corps de sa mère, mais son père est encore porté disparu. Donc pour lui, les recherches sont toujours en cours.
Pour bien qu'on comprenne, lui, il vit à Bogota. Il est issu, dit-il, des classes moyennes et ses parents ont été tués par les FARC.
Voilà. Donc en fait, quand il avait une trentaine d'années, aujourd'hui il en a 53. Quand il avait une trentaine d'années, ses parents ont été enlevés par les FARC. Donc au départ, en fait, il y avait un dialogue avec les FARC pour une demande de rançon, pour que la famille puisse payer une demande de rançon et retrouver ses parents. Puis le dialogue a été coupé et ils ont appris par la suite que les parents avaient été assassinés.
Lui, il est ingénieur en mécanique, il est donc animé par une quête de la vérité. Il veut savoir ce que ses parents ont subi et surtout retrouver le corps de son père. Et pour ça, il travaille, alors lui, victime des FARC, avec un ancien sympathisant des FARC, John Leon. Comment se sont-ils rencontrés? Est-ce que c'est le hasard ou c'est parce qu'ils ont été mis en contact dans le cadre de ce processus de réconciliation nationale?
Donc en fait, ce processus de réconciliation a permis un dialogue entre les familles des victimes et les anciens combattants. Donc John Leon n'est pas un ancien combattant, mais c'est un sympathisant des FARC pendant longtemps. On peut appeler ce que c'est la lutte clandestine. Disons que c'était pas des membres des FARC, mais c'était des jeunes qui étaient dans les villes et qui soutenaient la cause. Donc une fois que cette justice transitionnelle a été mise en place et que le dialogue a été possible, Helmut et John Leon ont pu converser tous les deux. Ils ont pu se rencontrer à différentes occasions et ils ont pu commencer à échanger, à discuter et à comprendre ce qui était arrivé à l'un et à l'autre.
Ce John Leon, il paraît très jeune, mais il était là en 2016. C'est lui qui a conseillé les FARC dans le processus de paix.
Oui, tout à fait. Il a été un conseiller des FARC pendant les accords de paix, pendant l'établissement en fait de cette justice transitionnelle et de cette justice réparatrice.
Est-ce qu'ils vous ont dit combien de temps ils ont mis pour s'apprivoiser l'un l'autre? Parce que ça devait pas être évident au départ. un homme, Helmut, une cinquantaine d'années, dont les parents ont été tués par les FARC, et un ancien sympathisant des FARC.
Oui, oui, bah, c'est sûr qu'ils nous ont raconté ça, qu'au départ, ils étaient, enfin, ils se sont rencontrés lors d'un dîner, qu'au départ, ils se regardaient du coin de l'œil, que, enfin, forcément, il y a une certaine haine qui existe, surtout de la part de Helmut, qui a perdu ses parents, donc, ça a été difficile. Et en fait, au fur et à mesure, ils ont commencé à s'apprivoiser quelque part et à se raconter chacun d'où ils venaient, de leurs origines, leur histoire. Et en fait, ils sont progressivement devenus amis. Ouais.
Il faut commencer par ça avant de mener cette enquête qui conduira Helmut l'espère à retrouver le corps de son père. Lui, John Leon, aide Helmut à mener cette enquête, à rencontrer d'anciens FARC qui pourraient le renseigner. Et régulièrement, Helmut, lui, une anthropologue, une psychologue et un avocat se réunissent autour d'une table pour partager les éléments dont ils disposent. Et c'est John Leon ici qui parle.
Tout commence à partir des informations qu'Helmut m'apporte. Par exemple, ils ont le surnom des gens, le nom de certains lieux, les différents liens entre les familles. Et moi ensuite, je peux relayer ces informations vers les personnes qui étaient présentes à l'époque et qui connaissent parfaitement la zone. Parce que malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas parler avec Helmut pour différentes raisons qui leur appartiennent. Mais l'important, c'est que moi je récupère ces informations, que je les analyse pour prendre des décisions.
Et quel genre de décision doit-il prendre alors, John Leon, Camille Toulmé?
Alors, en fait, lui, disons qu'il ne prend pas des décisions seul, il les prend en consultation avec des anciens combattants qui étaient sur le terrain, de décider où est-ce qu'ils vont aller rechercher, où est-ce qu'ils vont aller chercher, où est-ce qu'ils vont aller creuser. Donc, par exemple, en fait, Helmut, lui, vu qu'il est tellement concerné dans la recherche de ses parents, il va vraiment... aller poser des questions à tout le monde, et donc il va apprendre certaines choses, il va les expliquer à John Leon, il va peut-être dire oui, alors j'ai vu cette personne avec tel surnom, John Leon, il va dire ah oui, mais tel surnom, il va en parler à un ancien combattant qui va dire ah bah oui, tel surnom, je sais qui c'est, je sais où cette personne se trouve, donc s'il dit ça, donc en fait ils vont ensemble mener l'enquête pour arriver au point où potentiellement les parents ont été vus pour la dernière fois et enterrés.
Tout le monde y met de la bonne volonté ou certains les mettent sur des fausses pistes? Est-ce qu'en tout cas cette enquête suit son cours à peu près normalement ou il y a beaucoup d'embûches?
Disons qu'il y a des groupes qui sont super concernés par aider Helmut à retrouver ses parents, mais il y a aussi des gens qui sont réfractaires, pas tellement réfractaires, mais qui ont peur en fait de communiquer avec Helmut, qui représente la société civile de Bogota, qui sont très loin de lui. En fait, c'est quelqu'un qui vit en ville, donc il va s'adresser à des gens qui habitent en campagne, qui eux ne sont pas tellement sorti en fait de la campagne depuis les accords de paix. Donc il y a des gens en fait, ils vont seulement avoir peur de se confier, de dire ce qu'ils ont fait, d'avouer qu'ils étaient membres des FARC à l'époque. Donc c'est plus, ouais, je pense, un manque de confiance en fait entre les gens, plus qu'une volonté de déconduire des recherches, quoi.
Alors qu'a priori, ils ne risquent rien, en tout cas pas de peine de prison. Pour l'instant, il n'y a eu aucune inculpation de prononcée. C'est ça, ce processus de justice réparatrice qui s'inspire en fait de l'exemple sud-africain?
Oui. Alors, pour le moment, non, il n'y a pas encore eu de peine qui a été prononcée.
En tout cas, pas de peine de prison.
Parce voilà, pas de peine de prison.
D'intérêt général.
Oui. Alors, même les peines d'intérêt général, pour l'instant, n'ont pas encore été prononcées. Donc, ça doit mener à ça, mais pour l'instant, ça n'a pas été prononcé. Et si on parle, par exemple, des gens avec qui Helmut échange, des paysans avec qui ils échangent, en fait, eux, ils ne sont pas tellement concernés par cette justice réparatrice, parce que ceux à qui on donnerait des peines, c'est plutôt les donneurs d'ordre. Donc les gens qui avaient un certain grade dans les FARC, dans la guérilla. Et donc, en principe, c'est comme ça que ça a été négocié. Mais ce qui commence à se passer, c'est que même des gens qui n'étaient pas des donneurs d'ordre, qui étaient plus simplement des soldats, commencent à être inquiétés aussi par cette justice réparatrice, enfin inquiétés entre guillemets, mais dans le sens à être... On commence à leur demander des comptes. Donc c'est aussi là où les gens commencent à perdre confiance entre les accords qui ont été négociés à la base.
Alors, peu de peines prononcées, mais je crois que récemment, un ancien général de l'armée de terre, Henri Torres, a été condamné avec 47 autres militaires à semer des arbres dans le massif de Sumapaz. Donc lui, il a été jugé dans l'affaire des faux positifs. Ces civils morts que les militaires faisaient passer pour des FARC morts afin de faire du chiffre, comme on dit. Et donc lui et 47 autres ont été condamnés à semer des arbres. Est-ce que ça commence à poser débat dans le pays ou pas? Parce que quand on voit l'exemple sud-africain, exemple extraordinaire à raconter, une très longue série documentaire sur France Culture d'ailleurs lui a été consacrée récemment, mais avec beaucoup de gens qui disent, 25 ans plus tard, on aurait aimé voir les bourreaux de nos parents, de nos voisins être condamnés. Là, que disent les Colombiens de ce processus de justice réparatrice qui n'est pas censée envoyer en prison ceux qui ont commis des crimes, quels qu'ils soient, enfin de quel camp ils se soient trouvés?
La société, elle est très partagée vis-à-vis de cette question. Donc là, ce dont vous parlez, c'est les paramilitaires. Mmh. Et en fait, eux, ils n'ont pas pris part aux accords de paix de 2016. Donc en fait, ils peuvent être concernés par quelques peines de justice réparatrice comme celle-ci, mais ce n'est pas eux vraiment qui sont concernés les premiers. Là, vraiment, la justice réparatrice, c'est quelque chose qui a été mis en place entre le gouvernement, la société civile et les FARC, et les anciens combattants, les signataires de la paix. Donc, vis-à-vis de ça, la société, elle est très partagée. Il y en a qui considèrent qu'ils devraient payer cher, payer le prix fort, la prison. Et d'ailleurs, la famille d'Helmut, au sein même de sa famille, il y a des dissensions, c'est-à-dire que sa sœur, sa femme, ne sont pas vraiment d'accord avec cette justice réparatrice. Elles considèrent que la douleur qui a été infligée à leur famille est trop forte par rapport à une petite peine pour réparer, une peine pour réparer quelque chose dans l'espace public, ou pour elle c'est trop léger tout ça, quoi. Et donc la société est très divisée par rapport à tout ça, et en fait ça fait appel à la capacité de pardon et de reconstruction de chacun, de tout le monde, et donc c'est tout le monde vit la chose différemment. Mais Helmut, pour le coup, lui, il est super impliqué dans cette démarche-là, alors que c'est la victime directe, en fait. Il a perdu ses parents à 30 ans, donc c'est lui qui potentiellement a subi le plus de douleurs, mais il explique que pour passer à autre chose, pour avancer, il est obligé de faire cette démarche-là, de comprendre l'autre, de comprendre pourquoi ces personnes-là ont enlevé ses parents à cette époque-là, quelle était l'idéologie, etc.
La guerre a fait dans chaque camp ces litanies de morts et de disparus. Vous êtes allé, Camille Toulmé, dans la région du Catatumbo, c'est à la frontière avec le Venezuela, et vous avez assisté à des fouilles que mène cette fois un groupe d'anciens FARC pour retrouver des corps de victimes.
On est au bon endroit. Regarde ça, c'est là qu'ils ont enterré le traître.
Qu'il s'agisse de victimes civiles, de paramilitaires, de soldats, de policiers ou de guérilleros, toutes ces personnes disparues doivent être recherchées, retrouvées et remises à leurs proches. Cet accord ne peut pas fonctionner si les familles de victimes n'obtiennent pas réparation. Et je pense que l'une des réparations les plus importantes est de savoir ce qui est arrivé à un proche disparu. Quel a été son dernier moment? Quels ont été ses derniers mots? Qu'est-il arrivé à la personne que vous aimez?
Alors lui s'appelle Arsenio, il fait partie de ces FARC qui ont déposé les armes en 2016. Est-ce que toutes ces recherches menées, là en l'occurrence par des FARC, pour retrouver soit des frères d'armes, soit, il le disait, des victimes de l'autre côté de leur camp à eux, est-ce que ces recherches-là sont centralisées? Est-ce qu'elles sont coordonnées? Ou chacun fait sur son territoire, un petit peu à l'avenant?
Non, globalement, c'est assez organisé. Aussi parce qu'il y a beaucoup de territoires en fait qui sont encore contrôlés par des guérillas, donc ils y vont pas comme ça, sans se concerter. Et puis surtout, ça part un peu de Bogota, disons, où il y a une partie de l'organisation qui récupère des infos et qui, dans chaque région, a des membres. C'est très organisé. C'est une fois qu'ils ont un certain nombre d'infos, ils y vont. Après plusieurs mois de dialogue, de concertation, ils y vont. Mais c'est pas chacun un peu de son côté comme ça va faire des recherches, quoi. C'est quelque chose de très organisé. Ouais.
Comment lui, Arsenio, et ses compagnons, ses anciens compagnons d'armes, comment vivent-ils depuis 2016, depuis qu'ils se sont démobilisés et qu'ils ont rendu les armes? Vous avez filmé ce qui semble être un village d'anciens FARC. De quoi vivent-ils?
Le village qu'on a filmé, donc eux, c'est pas forcément des anciens FARC, mais en tout cas, c'était des gens qui vivaient dans ces zones-là, qui étaient contrôlées par les FARC, donc eux, ils n'étaient pas forcément des membres des FARC, mais en tout cas, c'était des paysans, c'est des paysans en Colombie, et enfin, ils vivent globalement de la culture de coca. C'est un peu.
Moi, je parle vraiment, pardon, de ces endroits où ces petites maisons, les unes avec les autres, où les FARC, les anciens FARC, sont vivent plutôt en communauté,
mais
quand même la vie en collectivité est très différente de ce qu'ils ont vécu quand ils luttaient au nom d'une idéologie marxiste.
Oui, oui. Alors, au moment de rendre les armes, enfin pour ceux qui les ont rendues. En fait, ils ont été, ils avaient pas de maison puisqu'ils vivaient dans la guérilla depuis toutes ces années. Donc, ils ont été mis dans ce qu'on appelle des camps. Donc, ils vivent ensemble en fait entre anciens combattants avant de pouvoir se réinsérer dans la société normale. Mais au final, en fait, ils sont juste entre eux et ils ont peu d'interactions avec le reste de la société colombienne. Quoi, ils sont. Mais on parle de gens qui ont vécu 30, 40 ans dans la guérilla, quoi, et qui à un moment donné, on leur dit, maintenant, vous vous réintégrez dans la société colombienne. Et c'est très, très compliqué pour eux, quoi.
Ils vivent d'une petite allocation, 90% du salaire minimum, qui est donc fixé à l'équivalent de 233 euros pendant 24 mois. Et seulement s'ils n'ont pas d'autres revenus, on les incite à mener des projets productifs ou pour construire des logements ou autres. Mais beaucoup vous disent quand même s'ennuyer, trouver la vie très différente de ce qu'ils ont pu vivre. Il y a quelques femmes qui interviennent assez peu dans votre document. Ouais. Mais qui vous ont parlé néanmoins.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Pour
on
vous dire
pas
quoi.
Forcément eu le temps dans le montage, de leur donner la parole. Mais en fait, faut se dire que c'est des personnes qui avaient des grades importants dans la guérilla. Donc, par exemple, Yorina, en effet, une femme qui était présente dans les recherches. C'était une femme qui avait une vingtaine de personnes sous ses ordres. Et en fait, qui, du jour au lendemain, presque, se retrouve dans la société colombienne sans travail, sans rien, sans responsabilité, sans famille aussi, parce que c'était... les guerrilleros n'avaient pas le droit d'avoir des enfants quand ils étaient... Dans la lutte armée. Autant pour les hommes, on peut peut-être se dire que quand ils sortent à 45-50 ans, ils peuvent potentiellement avoir encore des enfants. Mais pour les femmes, elles sont un peu coincées, quoi. Et c'est une chute importante. Et puis ce que Yorina explique aussi, c'est qu'elle a pris les armes à un moment dans sa jeunesse parce que la situation était terrible pour sa famille et pour son entourage. Et qu'en fait, elle sort et qu'elle retrouve une situation assez similaire. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour elle, ouais.
Réintégrer la société n'a pas été facile. Ça a même été très difficile. Nous avions appris à vivre en communauté. Et nous formions une famille. Une famille unie. Retourner dans la société a été un choc, car on n'y retrouve pas de solidarité, de fraternité, de camaraderie. C'est la politique du chacun pour soi.
C'est très dur d'assimiler les codes de la vie en société. Et le retour dans ma famille, ce fut... Comment dire ? J'étais très émue. De voir qu'elle vivait toujours dans les mêmes conditions. On a tant lutté pour obtenir des changements, et malgré tout, on constate que rien n'a évolué. Même avec le processus de paix, les conditions de vie en Colombie continuent d'empirer chaque jour.
D'anciens guerrilleros des FARC, nostalgiques de ces années de résistance et qui vivent aujourd'hui loin de l'idéal politique pour lequel ils se sont battus. Ils avaient par exemple demandé la réforme agraire qui n'a pas eu lieu ou pas encore eu lieu puisqu'on ne cesse de leur promettre. Peut-être pour conclure, Camille Toulmé, dans les campagnes, la reprise de la lutte armée semble être une menace sourde. C'est-à-dire quand vous êtes à Bogota, on sent qu'on est vraiment dans ce processus de réconciliation et de justice transitionnelle, alors que dans les campagnes, ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué, tout ça est plus distant.
Oui, c'est sûr qu'il y a un grand écart en fait entre comment la vie est à Bogota. On a l'impression, c'est une ville quand même développée où aucune crainte. Enfin, et à partir du moment où on part dans les campagnes, il y a des petits signes au départ. Enfin, que ce soit des maisons taguées aussi, enfin à l'effigie des guérillas, la nécessité de sur la route principale de rouler avec les vitres ouvertes parce que pour que les gens en fait qui contrôlent les routes sachent qui y a dans la voiture. Quoi. Donc ça montre qu'on est dans un endroit contrôlé. Enfin, on sait aussi, tout le monde le dit, qu'à n'importe quel moment on peut tomber sur un checkpoint. Trois jours plus tôt, notre passage, il y avait la chef de l'unité de recherche justement qui avait été séquestrée pendant trois jours. Donc c'est une sorte de menace comme ça un peu diffuse où on ne va pas voir des tanks ou des sacs de sable partout. Mais il y a cette petite menace qui est là et qui rappelle en fait que la zone est en conflit et qu'elle est disputée. discuter, quoi.
Et d'ailleurs, il reste aujourd'hui des combattants qui n'ont pas voulu se démobiliser. Dans un FARC, vous êtes allé à la rencontre de combattants du Front 33 avec votre co-réalisatrice Clémentine Athanasiadis. Peut-être un dernier mot. Gustavo Petro, qui a été élu en 2022, président de gauche, a promis une paix totale avec tous les groupes armés, y compris mafieux ou criminels, et de lutter contre les causes structurelles de la violence. Est-ce que les FARC que vous avez rencontrés lui font confiance ?
Alors, disons qu'ils lui font plus confiance qu'aux autres, et que dans 2 ans, en fait, il y a des élections en Colombie, et donc il laisse un peu ces 2 ans avant de voir comment ils vont agir. Mais c'est des gens qui n'ont pas rendu les armes, qui n'ont pas déposé les armes, et qui refusent de le faire tant que les choses ne sont pas visibles, tant que la réforme n'a pas été faite, ils ne bougeront pas dans tous les cas. Donc c'est pas des gens qui ont prévu une paix totale prochainement, quoi. Et puis surtout, en fait, là, les combats ont repris dans le sud du pays. Donc il y avait un cessez-le-feu, en fait, dans le pays globalement, mais là, des véritables combats ont repris dans le sud du pays. Donc ça reste un peu chancelant, quoi.
Merci beaucoup, Camille Toulmé. Votre documentaire Colombie, l'impossible réconciliation, avec un point d'interrogation, co-réalisé avec Clémentine Athanasiadis, sera diffusé demain sur Arte, dans Arte Reportage à 18h35. Oui. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Diamante Electrico, c'est un groupe colombien et cette chanson Perdida Total date de l'année dernière. On quitte la Colombie pour parler du Soudan, même si tout est toujours lié, puisqu'en ce moment, des migrants d'Afrique subsaharienne et notamment soudanais passent par le corridor, un corridor en Colombie qui est près de la frontière avec le Panama, pour aller aux États-Unis où ils sont considérés comme prioritaires à la protection avec les Ukrainiens. Mais dans les faits, c'est pas toujours simple. Cette guerre au Soudan déclenchée il y a un an maintenant, mais que les conflits à Gaza et en Ukraine ont occulté. Soudan, une guerre qui ne devait pas durer.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Deux hommes mûrs qui lancent les jeunes à la guerre, comme ça se fait partout et tout le temps. Deux généraux qui ont nourri l'hostilité des uns contre les autres et qui mettent depuis un an le Soudan à feu et à sang. Le général Al-Burhan d'un côté, le général Dogolo de l'autre, qu'on appelle Emeti, anciens alliés devenus ennemis, qui ont déjà causé la mort de milliers de personnes et forcé plus de 8 millions d'autres à partir. Une conférence humanitaire se tenait cette semaine à Paris, qui a rassemblé 2 milliards de dollars d'aide, soit moins de la moitié des besoins évalués par l'ONU pour le Soudan et les réfugiés soudanais dans les pays voisins.
Aujourd'hui, par cette mobilisation, notre présence à tous, c'est un message clair que nous passons aux belligérants en les appelant solennellement au respect du droit international humanitaire et de la protection des civils. Nous les exhortons à instaurer sans délai un cessez-le-feu afin de permettre aux acteurs humanitaires d'atteindre l'ensemble des Soudanais dans le besoin.
Nous sommes toujours avec nos invités, Jérôme Tubiana, conseiller aux opérations de Médecins Sans Frontières, spécialiste du Soudan, Gwenaëlle Lenoir, journaliste indépendante qui travaille en ce moment pour Mediapart, spécialiste du monde arabe et de l'Afrique de l'Est. Vous avez tous les deux longuement vécu au Soudan, que vous connaissez très bien. Marc Semo, notre partenaire du Monde, on commence avec vous, comme on le fait chaque vendredi. Et ce matin, cette guerre aussi absurde qu'oubliée.
Oui, absolument. C'est un désastre humanitaire oublié, loin des projecteurs des médias. C'est aussi une guerre absurde, une guerre pour rien entre deux généraux qui étaient un temps alliés et qui, depuis maintenant un an, se combattent pour le contrôle du pouvoir. Le prix, c'est l'autodestruction de ce pays, dont les 47 millions d'habitants sont plongés dans la faim, la misère et la violence. La moitié d'entre eux ont besoin d'aide humanitaire d'urgence et, selon l'ONU, je cite, « cela pourra être bientôt la pire crise de faim au monde ». Depuis les premiers combats il y a un an à Khartoum entre l'armée du général Al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Daglo, surnommé Emeti, 6 millions de Soudanais ont été déplacés en interne et près de 2 millions d'autres contraints à l'exil. Le conflit, en outre, risque de durer encore, car aucun des deux camps ne peut l'emporter. Les FSR tiennent la capitale, une grande partie du Darfour, et là où, à l'ouest, ils avaient été laissés les supplétifs du dictateur islamiste Omar el-Béchir. L'armée, elle, tient sur tous les airs et le reste du pays. La donne se complique encore avec des ingérences de plus en plus évidentes des voisins et notamment de la Russie. Alors la crainte maintenant, c'est celle d'une implosion de cet immense pays qui, en raison de sa situation géopolitique au centre, aurait des conséquences dans presque tout le continent, aussi bien au Sahel qu'en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Une catastrophe que tous, aussi bien les capitales occidentales que les capitales africaines veulent éviter, mais nul ne s'en donne les moyens.
Merci Marc Semo. Un pays coupé en deux par deux camps, deux hommes peut-être, mais chacun appuyé par des alliés, par des milices ou par des groupes armés. D'abord parce que vous avez assisté à la conférence humanitaire pour le Soudan cette semaine à Paris, Gwenaëlle Lenoir. Outre les chiffres annoncés de l'aide, est-ce qu'il était question de tenter une médiation avec des parties prenantes au conflit ?
Officiellement non. Officiellement, la France avait déclaré qu'il n'était pas question de rajouter une médiation politique à des médiations politiques déjà fort nombreuses et qui, sans doute parce qu'elles se concurrencent, ne mènent absolument à rien pour l'instant. Dans les faits, obtenir des résultats sur le plan humanitaire et notamment sur le plan de l'entrave de l'aide humanitaire due aux belligérants, aux populations qui en ont besoin, ne peut pas se faire sans processus politique. Il faut bien parler aux belligérants. Alors, on peut considérer qu'un premier problème de cette conférence était que les belligérants n'étaient pas là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la France a donc fait appel à la société civile soudanaise, sans bien définir ce qu'est cette société civile. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une société civile ? C'est quand même un petit peu compliqué.
Et qui la représente ?
Qui la représente ? Ça a été un deuxième problème. Donc en fait, cette conférence déjà était assez compliquée puisqu'il y avait trois volets. Un volet humanitaire avec les donateurs lundi après-midi, le lundi matin un volet plus politique au niveau ministériel et parallèlement à ça, une réunion à huis clos de cette société civile soudanaise, ou en tout cas telle que définie par les organisateurs de la conférence internationale. Et on a eu les listes étaient secrètes, les critères de choix étaient secrètes. Et d'après ce que j'ai compris de gens qui étaient dans cette conférence et que j'ai vu ensuite, il s'est franchement pas passé grand-chose, à part qu'ils étaient, donc les Soudanais présents, tous d'accord pour dire que, en gros, c'est la faute de l'ONU qui ne fait pas son travail, et c'est pour ça que la crise au Soudan continue.
C'est ce que vous ont dit ceux que vous avez rencontrés, ces représentants de la société civile qui ont parlé à huis clos sans qu'on sache vraiment s'ils étaient présents, par exemple, des jeunes des comités de résistance, ceux qui ont lancé la révolution de 2018 et contribué à renverser Omar el-Béchir à l'époque. Sur le volet humanitaire, Jérôme Tubiana, Médecins Sans Frontières, étaient présents quelques représentants lors de cette réunion. Est-ce que vous savez tout simplement comment sera répartie cette aide, les 2 milliards et quelques dont a parlé Emmanuel Macron?
Nous avions un représentant dans la session humanitaire dont parlait Gwenaëlle uniquement. Nous n'avons pas été invités aux autres sessions. L'aide, nous avons appelé, comme nos collègues d'autres ONG et de l'ONU, à plus d'aide, mais pas pour nous-mêmes, pour des opérations de l'ONU. Et c'est là que peut-être la critique est justifiée, qui tarde à se matérialiser. pas seulement parce qu'il y a des obstacles, il y en a, mais pas insurmontables. Il y a aussi de ce qu'on appelle des restrictions que l'ONU s'impose à elle-même en termes d'accès, que nous ne nous imposons pas, donc on a un meilleur accès.
Qu'elle s'impose pour des raisons sécuritaires.
Sécuritaires, notamment, mais... Ça, à chaque fois, ça demande. Par exemple, ils ne veulent pas traverser la frontière sans tchadienne, en l'occurrence, entre Tchad et Darfour, sans avoir l'autorisation du gouvernement aujourd'hui à Port-Soudan, qui pourtant n'a aucun contrôle sur cette frontière.
Oui, les autorités.
C'est ce qu'on appelle une autorisation qui n'est pas forcément justifiée, mais qui masque un peu le fait que, de toute façon, l'ONU, les agences de l'ONU, sur cette crise, sont extrêmement démunies parce que les donneurs, dont l'Europe, les États-Unis en particulier, ont été particulièrement radins. Et aujourd'hui, là, à cette conférence, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Les besoins étaient évalués à 4 milliards. La moitié seulement a été donnée. Donc c'est déjà bien, mais c'est pas assez.
Parce que les fonds
on ne sait pas vraiment comment il sera utilisé, parce que justement, ça dépendra de l'accès. Et là-dessus, c'est intéressant que vous ayez cité le discours d'Emmanuel Macron, notamment parce qu'il appelle... un cessez-le-feu humanitaire, mais en fait, on n'en a pas besoin. Et on n'a surtout pas besoin de s'engager dans des négociations quand il y a une urgence qui vont durer des années, où l'humanitaire risque d'être instrumentalisé pour qu'il y ait un cessez-le-feu. On peut faire de l'action humanitaire sans qu'il y ait un cessez-le-feu. On a besoin d'abord que les parties respectent et donnent l'accès à l'aide humanitaire.
Ce que vous voulez dire, c'est que vous savez faire.
Et matériel.
Vous savez faire,
bien sûr,
de toute façon,
déjà,
apporter de l'aide humanitaire.
On fait déjà depuis le début du conflit, et même avant le début du conflit, où la situation n'était pas fantastique non plus, dans des zones qui étaient en guerre déjà, comme le Darfour. On faisait déjà cet accès. Il y a différents types d'accès. On peut les négocier localement, sans forcément les négocier globalement, et surtout sans les instrumentaliser, donc comme le disait Gonel, dans un processus politique qui implique des réunions parallèles. On n'a pas besoin de ce volet politique. On n'a pas besoin... des deux autres réunions qui ont été mentionnées. On n'a pas besoin de mettre sous une appellation vague comme société civile. On a vu quelques personnes des comités de résistance, mais eux-mêmes n'avaient pas l'air très heureux d'être noyés au milieu de gens qui ne sont pas de la société civile, mais des acteurs politiques, des politiciens, voire certains des acteurs armés. Et ce mélange, on le sait par expérience au Soudan, qui a une longue expérience de l'instrumentalisation de l'aide humanitaire, des négociations qui durent éternellement. Probablement plus de 40 accords de paix signés ces 20 dernières années au Soudan et jamais appliqués, avec toujours un volet humanitaire. On n'a pas besoin d'un prétexte humanitaire pour maintenir des gens à une table de négociation qui ne s'arrête jamais.
Et surtout, ces jeunes des comités de résistance ou ceux qui aujourd'hui officient dans ce qu'ils appellent les chambres de réponse d'urgence qui sont organisées partout, surtout à Khartoum, des cuisines solidaires, de la distribution de matériel aussi, de soins, de premiers soins. Est-ce que eux peuvent toucher directement une partie de cette aide humanitaire obtenue cette semaine à Paris, ou c'est trop de paperasse, de documents Excel, de conditions à remplir pour qu'ils puissent l'espérer, Gwenaëlle Lenoir?
Mais c'était un des enjeux, il me semble, de cette conférence, et une des demandes justement des ONG internationales, c'est que l'argent puisse aller à ces chambres de réponse rapide, qui sont ce qui représente vraiment la société civile, en fait. C'est la suite des comités de résistance, donc c'est la suite de ce réseau qui maille le territoire de façon très efficace. Et c'est un réseau de proximité, en fait. Et ce sont eux. Alors, il y a les jeunes des comités de résistance, mais il y a aussi toutes les bonnes volontés, je veux dire, qui sont restées dans les zones de guerre, dans les zones contestées, et qui agissent et qui permettent à la population de se nourrir tant bien que mal et de se soigner, parce qu'il y a 70% des infrastructures médicales qui sont hors service aujourd'hui au Soudan. On meurt plus d'un problème de diabète que d'une balle actuellement à Khartoum.
Marc Sémo.
Je voudrais revenir sur les mots de l'ONU qui sont très forts. Dire que c'est la pire crise de faim au monde, c'est comme très fort, très lourd. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a réellement un risque de famine véritable?
Oui.
Puisque ce sont les mots employés par l'ONU aujourd'hui au Soudan.
Je pense que si Marc Sémo pose la question, c'est que par ailleurs, on sait que sur certaines crises où l'ONU parlait aussi de crise de famine la plus grave au monde, par exemple au Yémen, des organisations, des ONG disaient non, c'est pas exactement le cas, on a besoin d'autres choses. Qu'est-ce qu'il en est au Soudan, Jérôme Tubiana?
Oui, c'est une bonne question. D'abord, par rapport à d'autres crises, on manque terriblement de données, notamment parce qu'on manque terriblement de présence, et même s'il faut saluer ces organisations locales de la société civile pour leur action au jour le jour, c'est pas eux qui peuvent nous donner une... Pour ça, il faut des organisations internationales, il faut qu'ils fassent des études, et on n'a jamais eu aussi peu de données. Mais on sait, par ailleurs, famine est devenu un terme nos auditeurs peuvent utiliser d'une manière un petit peu lambda, mais qui, dans le monde humanitaire, est devenu très technique. Donc il faut que des critères quantitatifs soient remplis. Et c'est pour ça aussi qu'il y a besoin de données, si on peut dire, pour qu'une famine soit déclarée. Ce qu'on sait, c'est que la situation est effectivement dramatique. Les seules véritables données qu'on a, ce sont nous, Médecins Sans Frontières, qui les avons obtenues en faisant plusieurs études, dont très récemment, on a sorti les résultats il y a quelques jours seulement, ce qu'on appelle un screening de masse sur un des endroits où on est les plus présents, qui est un énorme camp de déplacés à côté de la ville d'El Fasher, au nord d'Arfour, la capitale du nord d'Arfour. C'est un camp de déplacés qui compte environ 400 000 personnes. Et on a donc screené, si on peut dire, pardon pour l'anglicisme, plus de 60 000 habitants de ce camp, dont 46 000 enfants de moins de 5 ans, qui sont les plus touchés par la malnutrition. Et le reste sont des femmes enceintes ou allaitantes. Et les taux sont tout à fait alarmants. Mmh. On a un taux donc de malnutrition globale pour ces enfants de moins de 5 ans de 30%. Un tiers des enfants de moins de 5 ans sont malnutris, souffrent de malnutrition aiguë. 8% de malnutrition aiguë sévère. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on en a identifié 10 000 environ qu'on va prendre en charge d'une manière thérapeutique, mais ça reste très insuffisant. On voit par ailleurs aussi que les taux sont aggravés par rapport à notre étude de janvier, probablement parce que justement rien n'a été fait. On sait que ce dont il y a besoin, c'est de nourrir l'ensemble de cette population. On a évalué les besoins pour la ville d'El Fasher, donc en grande partie ce camp, mais pour environ 500 000 personnes, on pense qu'il faudrait environ 370 camions de 20 tonnes de nourriture par mois. Et on pense qu'ils doivent venir en particulier par la frontière tchadienne, qui est à environ une journée de route. C'est le meilleur accès aujourd'hui. Et là-dessus, il va falloir qu'il y ait de l'accès, il va falloir qu'il y ait des pressions pour qu'il y ait de l'accès, puis il va aussi falloir peut-être que les Nations Unies se bougent un peu plus et lèvent ces restrictions. Le financement résout une partie du problème seulement.
Gwenaëlle Lenoir, vous
soutiens oui, concernant l'insécurité alimentaire, je pense qu'elle est aggravée aussi par la crise des déplacés, qui est la plus grave au monde, et beaucoup de gens ont été déplacés plusieurs fois. C'est-à-dire que le front n'est pas complètement figé. Mi-décembre, les hommes de Hemeti ont réussi une percée extrêmement importante vers l'Est, vers un état qui s'appelle l'état de la Jézira, et cet état a pour particularité d'être le grenier du Soudan. C'est un état agricole extrêmement riche, et là il y a deux conséquences principales énormes, c'est qu'il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de semailles, puisque le conflit continue dans cet état. Et en outre, une grande partie, par exemple, la capitale de cet état, qui s'appelle Wad Madani, était devenue un petit peu le nouveau hub humanitaire du pays, puisque Khartoum était inaccessible et de toute façon en zone contestée, en zone de combat. Donc par exemple, et là tout a été pillé à Wad Madani. Tous les stocks ont été pillés, tous les entrepôts ont été pillés par les hommes de Hemeti. Donc, par exemple, le PAM avait de quoi nourrir 1 million de personnes. Ça a été pillé. Les stocks de médicaments, de matériel médical ont été pillés.
Tout exactement. Pour nourrir et soigner les hommes de Hemeti et des forces de soutien rapide. Enfin, a priori, c'est ce qui s'est passé, ou pour leurs proches.
Ou pour les revendre gagner de l'argent. Mais toujours est-il que, et tout est désorganisé dans le pays. Donc, dans la Jézira, évidemment, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de semailles, puisque les gens ne peuvent pas atteindre leur champ. Mais même ailleurs, les gens ont été déplacés plusieurs fois. C'est très compliqué de se déplacer. Il y a des checkpoints partout. Je parle en zone tenue par l'armée. Il y a des checkpoints absolument partout. Une grande méfiance. Oui. Donc, les paysans ne travaillent plus. N'ont plus les moyens de travailler, donc n'ont plus les moyens de nourrir la population.
Alors pour qu'on essaye de se représenter ce que le Soudan est devenu, la guerre a comme coupé le pays en deux selon une ligne nord-sud, avec à l'est l'armée du général Al-Burhan, donc les forces, entre guillemets, l'armée régulière soudanaise, un semblant d'administration centrale déplacée de la capitale Khartoum vers la ville de Port-Soudan sur la mer Rouge, à l'ouest les forces de Hemeti qui contrôlent par ailleurs une grande partie de la capitale Khartoum. Est-ce qu'on peut parler, Jérôme Tubiada, d'une situation à la libyenne où deux hommes contrôlent une partie d'un pays qu'ils se disputent, chacun soutenu par des parrains étrangers?
C'est pas tout à fait une situation à la libyenne, même si on peut craindre que ça devienne. Mais en Libye, il y a, un précédent historique d'un pôle de pouvoir historique dans l'Est libyen, avec une forte légitimité. Donc au Soudan, on a aussi... une volonté, justement, d'abord parce que c'est un pays très centralisé, contrairement à la Libye, une volonté des deux forces de contrôler la capitale. Au départ, le conflit, et c'est ce qu'on prévoyait d'une certaine manière, parce qu'on sentait ce conflit venir, pas seulement entre les deux généraux, mais entre des forces fondamentalement différentes. On pensait qu'il ne se déroulerait peut-être que dans la capitale. C'est un peu une conséquence indirecte. Il y a eu autant de violences au Darfour, conséquence d'affrontements précédents au Darfour, qui n'ont pas grand-chose à voir directement avec l'enjeu politique du conflit, qui reste le contrôle du pays, donc de cette capitale Khartoum, très peuplée, très centralisée, et aujourd'hui très détruite. Donc je crains pas forcément un scénario à la libyenne.
Marc Semo.
Oui. Pourquoi ce conflit dure? Au début, justement, on pensait qu'il resterait limité à la capitale. D'ailleurs, on avait fait une émission il y a un an sur le Soudan, et c'était un peu, voilà, c'est ce qui ressortait. Il y a l'enjeu central qui est celui du pouvoir, et donc celui de Khartoum. Et finalement, il n'y a pas de rupture idéologique profonde, d'affrontement sur des questions de fond. C'est une pure lutte de pouvoir. Alors pourquoi ce conflit, à la fois, s'est étendu et a perduré?
Gwenaëlle Lenoir? Notamment sur peut-être la question de la façon dont les deux camps continuent à s'approvisionner et en armes et en hommes.
Alors effectivement, il y a des questions régionales qui sont rentrées en ligne de compte. Donc on dit aujourd'hui que côté armée régulière, le principal soutien auparavant c'était l'Égypte. Alors, petit problème entre l'Égypte et l'armée régulière, notamment le général Al-Burhan, c'est que parallèlement au général Burhan, le général Al-Burhan de plus en plus est entouré d'anciens, de membres de l'ancien régime,
donc des islamistes,
ce que évidemment le président Al-Sisi n'apprécie guère. Et ces islamistes prennent de plus en plus de pouvoir dans l'administration du gouvernement de Port-Soudan, on va dire.
Il a réussi à remobiliser l'ancien appareil d'Omar el-Béchir, que ce soit...
On a même dit qu'il était en fait, que c'était en fait une marionnette de cet ancien régime. Ce qui est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, il avait des accointances. Il en est issu, lui-même. Hein. Aujourd'hui, donc, c'est plutôt l'Iran, en fait, qui semble soutenir l'armée régulière. Quant à RSF, aux forces de soutien rapide, leur parrain, c'est plutôt les Émirats Arabes Unis, qui fournissent, dit-on, armes et argent. Les Émirats Arabes Unis, je précise, nient fournir des armes. Enfin, ça semble quand même assez probable. Donc, effectivement, il y a des parrains régionaux qui se sont bien installés dans ce conflit. Par ailleurs, aucun des deux belligérants ne veut céder, de toute façon. Chacun des deux belligérants est persuadé qu'il va avoir le dessus et que, de toute façon, c'est une lutte à mort. Hemeti, il pense que s'il perd, et on peut pas lui donner tort, en gros, sa vie est vraiment en danger, sa vie et son empire économique et familial est vraiment en danger. Et Al-Burhan, lui, pense qu'il peut avoir le dessus, puisque récemment, l'armée régulière a mené des contre-offensives, notamment à Khartoum, qui ont été couronnées de succès. Donc, pourquoi maintenant discuter avec son ennemi alors qu'on est sur le point, on pense être sur le point de reprendre la capitale, donc, qui est le cœur du conflit?
Les deux camps sont persuadés que la victoire est proche, en fait, et donc sont persuadés qu'ils reprendront l'un et l'autre la capitale Khartoum. Vous évoquez la question de ces parrains internationaux, enfin des parrains de chaque camp, les Émirats Arabes Unis qui soutiennent et Hemeti qui disent ne pas le faire, mais qui, on sait qu'ils sont impliqués au Soudan, mais ils ont acheté beaucoup de terrains agricoles, notamment ces dernières années. On a l'impression que tous ceux qui se posent aujourd'hui comme médiateurs de cette guerre au Soudan sont impliqués d'une façon ou d'une autre, ou ont des intérêts à défendre. Jérôme Tubiana.
Oui et non, parce que faire de la médiation en soi est devenu un but en soi pour beaucoup de pays qui ont envie d'exister diplomatiquement. C'est même un business. Ça véhicule aussi de l'influence économique, politique, etc. Mais il y a des médiateurs qui ont plus de neutralité que d'autres, et il y en a qui ont aussi plus de levier que d'autres. Et pour nous, je pense que le plus important, c'est l'efficacité et donc la véritable médiation. Macron a d'ailleurs mentionné qu'il y avait beaucoup de médiation et que toutes contribuaient à la paix, mais non, il y en a qui peuvent contribuer plus que d'autres parce que leurs parrains ont de l'influence, et c'est le cas de la médiation des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Par contre, si elle bloque, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez de pression, parce que ce conflit est, comme disait Marc, oublié ou pas assez haut sur l'agenda. Mais l'autre raison, c'est que, comme le disait Gonel, les belligérants ont des positions diamétralement opposées. Et aucun n'offre vraiment une voie de compromis ou de sortie à l'autre.
Marc Sémo.
Alors, je suis très frappé. Ni l'un ni l'autre, vous n'avez parlé des Russes et de l'Afrique et du groupe Wagner, ou ex-Wagner, l'Africa Corps aujourd'hui, qui ont quand même aidé Emeti, notamment au début, du moins d'après ce qui remonte, d'autant qu'ils étaient en affaire avec Emeti pour des questions pour les mines. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Gwenaëlle Lenoir, est-ce qu'on sait si Wagner est toujours là ? Et Wagner qui était très impliqué dans les mines d'or, et on sait que Emeti a fait sa fortune économique sur les mines d'or. Est-ce qu'on a des indices aujourd'hui ou des certitudes ?
Il est omniprésent en Afrique, donc ça serait étonnant qu'il ne soit pas quand même impliqué dans ce conflit.
Il n'y a aucune raison pour qu'il soit parti. D'ailleurs, l'Ukraine en tout cas en est persuadée, puisque l'Ukraine a mené des opérations type commando spécial au Soudan contre les forces de soutien rapide. Ça a été des opérations extrêmement ponctuelles.
Mais quand ? Avant la guerre ?
Non, après la guerre.
D'accord.
Et quel genre ?
Quel genre, il me semble, il y en a vraiment eu très peu, j'ai vu ça passer, vraiment des opérations commando sur des ponts, par exemple, à Khartoum, me semble-t-il. Donc, oui, les anciens de Wagner sont probablement là. Est-ce qu'ils sont très actifs et très puissants ? Honnêtement, j'en doute. Je pense que les gens qui se battent sur le terrain, ce sont des Soudanais. Et essentiellement des Soudanais, et ce sont d'un côté les forces de soutien rapide et de l'autre côté l'armée régulière. Et je dirais, les Soudanais n'ont besoin de personne, en fait, d'extérieur pour mener cette guerre sur le terrain. C'est-à-dire, ils sont armés par l'extérieur, ils ont de l'argent et ils ont de quoi, malheureusement, ils ont de quoi continuer.
Armés par l'extérieur, armés par les Émirats arabes unis en ce qui concerne les forces de soutien rapide qui font a priori passer des armes via le Tchad notamment, armés aussi, ou en tout cas équipés, là on parle pas d'armes, mais d'équipements techniques. Vous aviez, Gwenaëlle Lenoir, pour Mediapart, fait une enquête sur ces forces de soutien rapide qui aujourd'hui, on disait au départ, ils n'ont que des 4x4, donc face à l'armée soudanaise régulière, ils ne pèsent pas lourd, et ça faisait partie des choses qui faisaient dire au début de la guerre qu'elle ne durerait pas longtemps. Or, vous vous êtes rendu compte, et d'autres, que ils disposaient quand même, ces hommes des métiers, de moyens techniques et technologiques importants, notamment ceux que l'Union européenne avait mis à la disposition du Soudan pour surveiller ses frontières. Et ça date du processus de Khartoum en 2015. Vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots ?
Alors, en fait, les forces de soutien rapide, même avant la guerre, elles étaient extrêmement bien équipées. Elles étaient même sans doute mieux équipées et mieux entraînées et plus motivées que l'armée régulière soudanaise.
Donc pas juste des 4x4 et des fusils mitrailleurs.
Non, beaucoup plus que ça. Ce qui manquait, en revanche, aux forces de soutien rapide avant la guerre, c'est l'aviation. C'est toujours le cas. Les airs sont tenus par l'armée régulière, par l'aviation de l'armée régulière, et de l'artillerie lourde, des canons lourds, en fait. C'est ça qui leur manquait. Mais pour le reste, ils avaient ce qu'il fallait. Quant à l'action de l'Union européenne dans le processus de Khartoum, en fait, ce qui a été beaucoup fourni au Soudan, ce sont des moyens de contrôle des mouvements humains et des formations. Il y a beaucoup de parmi la police soudanaise, parmi l'armée soudanaise, des gens qui ont été formés par l'Union européenne, le but étant d'arrêter le flux des migrants.
Et sans savoir forcément que les interlocuteurs soudanais allaient devenir des hommes des métiers, mais en tout cas, ils les ont fournis en appareil, que ce soit téléphone, satellitaire, etc.
En même temps, les gardes frontières, le contrôle des frontières, depuis Omar el-Béchir, a été donné aux hommes de Hemeti, aux forces de soutien rapide, par Omar el-Béchir, donc l'Union européenne le savait forcément.
Un général notamment qui revenait tout le temps à l'époque dans les discussions, le général Daya. Jérôme Tubiana.
Oui, pour revenir un peu sur cette histoire-là qui est intéressante et complexe. À l'époque, il y avait évidemment déjà des luttes de pouvoir au Soudan. Et pour l'opposition soudanaise, il était intéressant d'accuser l'Union européenne de soutenir directement les forces de soutien rapide. Et l'Union européenne a eu beau jeu de se défendre en disant « Non, nous, on coopère avec le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'Omar el-Béchir. » Je voudrais dire que le problème n'est pas à quelle force est allée la coopération européenne, même si personnellement, des officiers des forces de soutien rapide m'ont certifié, et plusieurs d'entre eux, que le jour où l'Union européenne avait fait son processus de Khartoum, qui est un processus régional, mais quand même, c'est pas anodin de choisir le Soudan comme capitale d'un processus régional de contrôle de la migration, que ce jour-là, donc, Ils ont reçu de l'argent de la présidence soudanaise pour contrôler la frontière Soudan-Libye et pour bloquer des réfugiés, des migrants de toute la Corne de l'Afrique, y compris du Soudan, qui voulaient aller se réfugier ou fuir leur pays pour la Libye et pour la Méditerranée éventuellement. Et donc, mais le problème, c'était de collaborer aussi avec le ministère de l'Intérieur, aussi avec la police soudanaise, parce que toutes les forces armées soudanaises sous Béchir étaient abusives envers leur propre population et envers les migrants et réfugiés. Le problème, c'était que l'Union européenne...
L'externalisation des frontières.
Ce qu'on appelle l'externalisation des frontières, fait des accords avec des gouvernements autoritaires, avec des forces armées violentes, qui ne respectent pas les droits humains. Et c'est le cas avec des milices, parfois. C'est le cas en Libye, en particulier, depuis 2015. C'est le cas plus récemment en Égypte. C'est le cas en Tunisie, un régime qui a aussi une dérive autoritaire en ce moment. C'est le cas avec plus d'une dizaine de pays. Et l'Union européenne n'est pas dérangée par la nature des acteurs avec lesquels ils coopèrent. Ils disent qu'ils les forment aux droits humains avec un succès plus que limité. Hein, quand on voit le nombre de morts en Méditerranée aux mains des gardes-côtes libyens, par exemple. Donc voilà, le vrai problème, c'est ça, c'est que cette coopération même décrédibilise l'Union européenne. Les acteurs soudanais qui étaient critiques de la conférence de Paris, ce sont les mêmes qui critiquaient cette politique il y a quelques années.
L'Union européenne qui disait avoir choisi le Soudan parce que c'est à la fois un pays de transit et de départ. Il y a des Somaliens, des Éthiopiens, des Érythréens qui passent par le Soudan pour rejoindre la Libye avant d'embarquer pour l'Europe. Des Soudanais aussi prennent la route et en particulier depuis le début de cette guerre. Alors le HCR de l'ONU, le Haut Commissariat pour les réfugiés, parle de 6000 Soudanais arrivés en Italie ces derniers mois. Ce matériel qui a été distribué par l'Union européenne au Soudan, système d'écoute, d'identification à l'origine pour suivre les trafiquants, des drones pour contrôler des lieux 24 heures sur 24, des téléphones satellitaires sécurisés. Aujourd'hui, des forces du général Emeti, donc forces de soutien rapide, disent que ça les a aidés quand même dans leur progression géographique au Soudan. Dans certains reportages, ils sont parfois comme ça mentionnés de façon anonyme. Au Darfour, cette fois, région que vous connaissez bien, Jérôme Tubiana, l'armée de Emeti aujourd'hui contrôle plusieurs zones, contrôle donc, administre Jérôme Tubiana, ou c'est un contrôle purement militaire?
Ça dépend des endroits. Mais on peut dire que c'est un contrôle essentiellement militaire et qui reste quand même très sporadique. Ce n'est pas une force armée qui peut remplacer une administration. C'est aussi désordonné. Parfois, il y a une partie des troupes des forces de soutien rapide qui sont eux-mêmes désavouées par les forces de soutien rapide parce qu'ils ne suivent pas une chaîne de commandement claire, etc. Mais il y a certains endroits, par exemple à El Geneina, à la frontière tchadienne, où on voit un semblant d'administration locale se faire, qui implique les forces de soutien rapide ou leur soutien civil, on va dire.
Gwenaëlle Lenoir, dans un de vos articles pour Mediapart récent, un humanitaire vous dit qu'un dialogue est possible avec les forces de soutien rapide au Darfour, mais qu'en revanche, le général Emeti a du mal à tenir ses troupes. Qu'est-ce qu'il veut dire?
C'est un peu ce que disait Jérôme, mais ça concernait effectivement surtout la région d'Al Geneina, donc à l'extrême ouest. C'est que on peut négocier un passage avec les forces de soutien rapide. Le problème, c'est est-ce que les groupes qu'on va croiser sur la route, eux, vont obéir aux commandants des forces de soutien rapide? C'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a quand même une grande autonomie de ces hommes. Moi, j'ai eu des informations aussi concernant la Jezira. Donc, depuis que la Jezira est contrôlée par les forces de soutien rapide.
La capitale de cet État dont vous nous disiez tout à l'heure, Grenier à blé.
Il y a des tentatives des forces de soutien rapide, enfin des commandants en tout cas, de mettre en place des administrations, de faire revenir la police, de rouvrir des centres médicaux, etc. Mais enfin, en général, ça se fait quand même à la pointe du fusil. Et encore une fois, les gens n'ont aucune garantie de sécurité.
Les hommes de Emeti connaissent très bien le Darfour. Ce sont beaucoup d'anciens Janjaouides, donc ces diables à cheval, ces supplétifs recrutés parmi les éleveurs de bétail à l'origine des forces de soutien rapide. Il y a eux. C'est pour eux qu'on a créé ces forces du général Emeti. Ils connaissent très bien le terrain. Si les forces en présence ne sont plus les mêmes qu'au début de la guerre au Darfour en 2003, Jérôme Tubiana, notamment parce que avant ils étaient alliés, ces deux généraux, maintenant ils se font la guerre, est-ce que les mécanismes à l'œuvre, les méthodes employées, les discours de haine sont les mêmes qu'il y a 20 ans au Darfour?
Pas totalement, mais on voit effectivement la manière dont le conflit au niveau national est utilisé par les mêmes acteurs qu'il y a 20 ans pour régler des comptes. Et donc on voit monter aujourd'hui au Darfour, et pas seulement au Darfour, en particulier des tensions entre les communautés arabes, plutôt proches des forces de soutien rapide, et des communautés non arabes.
Les Massalites, notamment.
Les Massalites sont ceux qui ont subi les plus fortes violences, qui ne sont pas forcément proches de l'armée, mais disons que les communautés arabes ont utilisé leur lien avec les forces de soutien rapide pour s'en prendre aux Massalites et régler des comptes parfois très anciens, qui remontent aux années 1990. Donc là-dessus, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu effectivement plusieurs épisodes de violence dont les Massalites ont été victimes.
Mais pris pour cible ou victime collatérale?
Non, ouais. Pris pour cible, tout à fait. Pris pour cible. On a fait une étude de mortalité rétrospective. C'est une des rares études qu'on a aussi aujourd'hui sur les réfugiés Massalites qui se sont retrouvés au Tchad. Ils ont simplement franchi la frontière. Et on a constaté des taux de mortalité très élevés, avec notamment 80% des victimes ont été victimes de violences, et plus de 80% sont des hommes. Donc on a vu un ciblage des hommes dans ces données qui corrobore les récits que les témoins ont fait, notamment dans la presse. Et donc voilà, évidemment ça rappelle le conflit du Darfour il y a 20 ans. Ça reste relativement localisé. Il y a 20 ans, c'était dans tout le Darfour, mais ça concerne quand même beaucoup de monde, et on a peur que ça s'étende, que ce type de violence ethnique s'étende même très prochainement dans d'autres régions du Darfour ou dans d'autres régions du Soudan.
Donc et que la guerre s'étende elle aussi. Il nous reste malheureusement très peu de temps, Gwenaëlle Lenoir, mais pour conclure, ce besoin très pressant, très urgent qu'il y a à contenir les choses, surtout à les arrêter bien sûr, mais aussi à les contenir, parce que un État failli dans une région où d'autres États sont en déliquescence, le risque est immense, et c'est pour ça que vous appelez l'un et l'autre à ce que cette guerre ne soit pas oubliée.
Mais il faudrait effectivement qu'elle reste un petit peu en haut des agendas internationaux, parce qu'on a la Libye d'un côté, on a la Somalie de l'autre, le Soudan est au milieu. Donc un troisième État failli dans cette région, les conséquences vont dépasser très largement le continent africain.
La chanteuse soudanaise née à Khartoum, qui vit aujourd'hui aux États-Unis, Nadine El Roubi, et cette chanson qui date de 2018, Throne, trône comme celui que se disputent deux généraux qui envoient les jeunes à la guerre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans Culture Monde. Gwenaëlle Lenoir, journaliste indépendante, tous vos articles sur Mediapart sont à retrouver sur le site du journal. Merci Jérôme Tubiana, conseiller aux opérations de Médecins Sans Frontières. Et merci Marc Sémo, on vous retrouve vendredi prochain avec Mélanie Chalandon.
Gacon. C'est elle aussi qui vous présentera les deux prochains épisodes de la série que nous consacrerons dès lundi à l'Iran et ses alliés dans la région, ce que Téhéran appelle l'axe de résistance face à Israël. Quatre fronts pour un même conflit. On parlera donc de l'affrontement détourné à la guerre assumée, la nouvelle stratégie de l'Iran, Liban, Syrie, la drôle de guerre du Hezbollah, le Hamas et ce mariage de raison avec Téhéran, Yémen, au Yémen, les outils des alliés intéressés, et on évoquera aussi le Soudan, puisque vous disiez, Gwenaëlle Lenoir, que l'Iran soutient aujourd'hui l'armée régulière avec des drones. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est les Midis de Culture.